Bienvenue dans le podcast Focus Immo Pacifique, le podcast qui va à la rencontre des investisseurs et professionnels de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie. Vous souhaitez commencer à investir dans l'immobilier ou trouver de nouvelles sources d'inspiration pour vos projets? Ce podcast est fait pour vous.
Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Yann Gouriou et Charlie Léger, tous deux associés et gérants de la société Born Again, spécialisée dans la promotion immobilière et la construction de villas. Découvrez les coulisses d'un métier aux multiples facettes dont le produit final correspond à la livraison d'une villa clé en main, en passant par la recherche d'un terrain, les démarches administratives, le financement, l'étude de sol et la construction de la maison de A à Z. Nos hôtes nous livrent également un aperçu du quotidien d'un promoteur immobilier, un métier très prenant qui demande des compétences pointues et variées. Sans plus attendre, accueillons Yann Gouriou et Charlie Léger.
Yann Gouriou et Charlie Léger, merci de votre accueil dans vos locaux ici à Born Again et aussi à l'agence 98 IMO en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, on va parler de promotion immobilière et de construction puisque c'est vraiment le cœur de métier, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc dans ce podcast Focus IMO Pacifique, on va à la rencontre des professionnels de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique. L'idée, en fait, c'est de raconter un peu l'histoire de la création de votre société et en quoi consiste un peu votre métier. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Yann, si tu veux commencer, raconter un peu ton parcours et après nous dire un peu ce qui vous a amené à créer cette société.
Du coup, Yann Gouriou, j'ai 36 ans. Mon parcours professionnel a été un peu atypique. Moi, j'ai un bagage universitaire, j'ai un master en droit public des affaires. J'ai passé à Toulouse. Revenu sur le territoire, je voulais absolument travailler au gouvernement, à la province, dans la fonction publique pour aider mon pays. Et j'ai vite vu que c'était pas fait pour moi. J'ai fait un stage de fin d'études de 3 mois là-bas. Et en fait, ça correspondait pas avec mon profil. J'ai été aspiré par un cabinet de consulting pendant 5 ans.
Okay.
Sur l'accompagnement des pouvoirs publics, mais dans le privé du coup. Et au bout de 5 ans, j'ai eu une opportunité de travailler dans l'immobilier.
Okay.
Parce que j'ai toujours su que j'avais une force de vente importante.
D'accord.
Depuis tout jeune. Et du coup, j'ai essayé ça sans conviction dans une agence immobilière comme salarié, et il s'est avéré que dès le premier mois j'ai eu des résultats très très concluants. J'ai fait 8 ventes le premier mois.
Excellent. Ouais, ça a l'air énorme comme ça.
Ouais, c'était très concluant, et du coup ça m'a séduit. J'ai continué à travailler dans l'immobilier pendant 6 ans, 7 ans comme salarié, et comme grâce à mon master de droit je pouvais ouvrir une agence. J'ai trouvé un sleeping partner qui m'a accompagné sur le projet. On a créé une agence immobilière. Et avec ce même sleeping partner, je suis rentré associé aussi dans la boîte de construction, qui est Born Again.
D'accord. Et là, tu peux nous rappeler un peu les dates de construction? Ça fait quelques temps maintenant que vous avez créé l'agence immobilière?
L'agence immobilière a été créée en 2016.
98 IMO, c'est ça, hein?
98 IMO a été créée en 2016. C'est une société qui est spécialisée uniquement dans la transaction immobilière. Dans l'occasion et le neuf et la VFA. Et Born Again a été créé en 2015. On est tous les deux actionnaires de 98 IMO et on est 3 dans Born Again.
Ok, super. Et du coup, donc Born Again, c'est plutôt la construction, la promotion immobilière. Hein, si j'ai compris.
C'est exactement ça.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste la promotion? On entend dire, ok, promoteur, c'est quelqu'un de loin, quelqu'un qui débute, qui ne sait pas trop de quoi on parle, qui trouve des terrains pour construire des immeubles ou des maisons. Est-ce que vous nous expliquez un peu comment ça se passe au quotidien et comment vous... Ça,
alors le métier de promoteur, c'est sûrement un des métiers les plus riches qui puisse exister, parce que si on veut bien le faire, il faut s'intéresser à tout. Il faut s'intéresser à la partie juridique, à la partie technique, à la partie administrative, à la partie relationnelle, à la partie commerciale, c'est à la partie maître d'œuvre, suivi de chantier. C'est un métier un peu... Chaque jour est différent, chaque jour est complètement...
Imprévisible.
Imprévisible. On est toujours à gérer des urgences, toujours à gérer des projets de A à Z. Et c'est un métier qui est prenant, qui prend au trip, mais qui a le mérite d'être vraiment excitant et... Quand on réalise ses objectifs, c'est plaisant.
Ok. Ouais. Effectivement, j'imagine tu commences à la recherche du terrain. Mm-hmm. Après, il y a peut-être des permis de construire, des demandes d'autorisation.
Oui.
Et il y a tout un tas d'intervenants, comme tu nous dis, vous êtes un peu la pierre angulaire d'un ensemble d'acteurs qui interviennent dans le projet.
Exactement.
Avec un cadre juridique
très contraignant.
Précis, je dirais.
Précis et contraignant.
Et comment ça se passe, la recherche de terrain, par exemple?
La recherche de terrain, nous, elle est...
Aujourd'hui, est-ce que... on peut encore construire sur Nouméa, est-ce que vous cherchez ailleurs? Quels sont les souhaits des gens aussi? Parce que vous, construisez de la maison individuelle.
Exactement.
C'est surtout ça. Hein.
Nous, on a une éthique, on est persuadé qu'en Nouvelle-Calédonie, il faut vivre dans une maison et pas dans un immeuble. Donc on se refuse à construire de l'immeuble. On est persuadé que le marché de l'avenir se trouve dans la villa. Ça a été une conviction depuis le départ de Born Again et on est plutôt satisfait des résultats.
Mais ouais.
Le marché du foncier sur Nouméa a été pulvérisé par la RILI 1 et RILI 2, les lois de défiscalisation locale.
Ouais.
Il n'y a plus rien à vendre sur Nouméa, soit à des prix exorbitants
pour construire tout petit bout de terrain.
De l'horizontale, en tout cas, c'est quasiment plus possible, part pour du très cher, du marché quartier sud avec des villas très très chères. Nous, on n'est pas dans ce marché-là, on est dans le Grand Nouméa. On construit essentiellement sur d'MBA jusqu'à Païta. C'est notre zone d'activité, sur des villas F4 essentiellement, avec suite parentale, à des prix intéressants pour des primo-accédants ou pour des gens qui souhaitent changer de style de vie, de passer de l'appartement à vivre dans une maison avec un jardin, ce qui change tout.
Ouais. Je dirais en Calédonie, ça reste un peu le modèle que les gens souhaitent.
Il y a eu quand même un essor de l'appartement qui a été violent. Aujourd'hui, sur le marché, il y a énormément d'appartements à vendre et énormément de projets de construction verticaux qui sont toujours en cours de réalisation.
Parce que beaucoup veulent rester sur la capitale aussi.
Beaucoup veulent rester sur la capitale, mais du coup...
Obligés de rester dans un appartement.
Exactement, obligés de rester dans un appartement. Du coup, c'est un autre métier qui est tout aussi valorisant, mais... nous on ne maîtrise pas et vice versa ils ne maîtrisent pas parce que nous chaque chantier est un contrat et c'est plus rapide qu'eux où ils sont sur un chantier pendant 2 ans, 3 ans. C'est vraiment une autre façon de gérer. Donc nous la recherche de foncier effectivement c'est un facteur clé, c'est pour ça que les gens s'adressent à nous parce qu'on a une expérience du terrain qui est importante et sur l'analyse de la qualité du terrain, sur l'analyse du potentiel futur de la valeur de la maison sur ce terrain-là, tout ça, c'est des éléments clés qu'on maîtrise très bien et qu'on partage à nos clients.
Et ouais. Parce que c'est comme un agent immobilier qui va estimer un appartement, une maison existante, là, c'est encore plus dur. Il faut s'imaginer le projet terminé et à déjà avoir un coût à proposer, j'imagine, pour un client. Donc, maîtriser ses coûts de A à Z sans que le projet soit déjà existant, quoi.
Exactement.
Ouais. Effectivement, ça doit demander un sacré coup d'œil.
Coup d'œil, après on est entouré d'experts, bien entendu, mais l'expérience fait que rapidement, déjà au premier coup d'œil, on arrive une idée, c'est juste du prix.
Du coup, est-ce que vous achetez un terrain, vous construisez une maison, ou est-ce que vous achetez des grands terrains pour pouvoir les découper avec des lotissements?
On fait de tout. On fait des grands terrains. L'année dernière, on a fait une promotion d'un grand terrain qu'on a divisé en 3 pour faire des très belles villas sur Dembe à Rivière. C'était des prestations importantes avec des belles villas, des grandes surfaces habitables.
D'accord.
Et on fait aussi du one shot avec des petits terrains le plus proche
possible de Nouméa. Quelqu'un, moi je viens vous voir, je veux construire une maison. Vous pouvez me proposer une parcelle sur l'un de vos terrains ou une promotion en cours, ou alors m'aider à chercher peut-être un terrain. Imaginons, j'ai des critères, je veux un bord rivière avec un bout de forêt, je sais pas, comme ça. Hein.
Alors soit, là ici, comme vous avez la chance d'être à la fois chez un promoteur constructeur et aussi une agence immobilière, donc si vous voulez acheter un terrain sur le guide du terrain et après qu'on vous construise, on peut faire ça grâce à 98 IMO. Après nous, on propose des terrains clés en main, sur lesquels vous n'avez pas trop le choix, mais que nous, on a choisi en amont. Et là, par contre, c'est une vente classique en VFA. Mais sur la recherche de terrain, sur des doléances bien précises, on est assez redoutable aussi sur notre réseau, sur notre façon de gérer les choses.
La stratégie pour vous, c'est quoi? C'est étendre vers, Dembéa,
le nord,
Païta et Mondor aussi?
Non, le nord.
Surtout le Nord. Mmh. Ok. Et la demande se porte plus aujourd'hui vers ces...
Bah,
ces
tout le développement économique de Nouméa se porte vers le Nord.
Hein. Ok.
Si on prend un peu de recul, on regarde Nouméa, c'est le Nord.
Ah ouais.
Pas... Le Sud est bloqué, donc c'est le Nord où il faut y aller.
Ouais. T'évoques les blocages routiers, par exemple?
Blocage routier, blocage foncier.
Foncier également, ouais. Ok.
Tout est déjà parcellisé et là-bas, c'est en devenir.
En devenir, ouais. Mmh. Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les... la villa du Calédonien moyen qui veut voilà son petit terrain, la taille, les caractéristiques un peu.
C'est une villa en dur essentiellement.
Ouais.
Il y a un petit marché du bois qui commence à exister, qui est pas négligeable sur des villas un peu plus prestigieuses, mais sur un rapport qualité-prix comme ce que nous on propose, on est sur des villas en dur, villa F4 avec grosso modo 100 mètres carrés habitables, un peu moins.
Okay.
Une belle terrasse pour vivre dehors parce qu'on vit dehors en Calédonie. Un jardin. Il faut que ça dure dans le temps. Que ce soit solide, efficace, à un prix raisonnable. Voilà, nous, c'est notre créneau.
Ok. Mm. Et ton villa en dur, c'est en parpaing ou en béton? Enfin, je veux dire...
En aglo.
En aglo, ouais, c'est ça.
Aglo, chaînage extérieur, intérieur, placo double pot.
Ok. D'accord.
Charpente métallique.
Ouais, et voilà. C'est vraiment le standard de la, on va dire... du petit foyer moyen qui va devenir propriétaire.
Oui, après il y a le standard aussi en moins cher et encore on s'aligne, c'est la maison en préfa, mais en préfabriqué, du coup, c'est ce qui peut des fois être moins cher que nous, mais bon, voilà, c'est une autre façon de voir la maison. On la voit plus sur la durée.
Et du coup, vous faites la promotion, mais vous faites la construction. Du coup, vous avez des équipes qui vont construire directement comme une société de construction finalement.
Exactement. Et on a un réseau de construction qui travaille avec nous depuis 1998 parce que Bornegen a été créé en 2015 mais elle s'appelait autrement dans le passé.
D'accord.
Et du coup, c'est les mêmes équipes qui travaillent avec nous depuis la nuit des rats.
OK. Nous,
on a c'est pour ça qu'on est efficace dans les délais de construction.
Est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'ensemble des corps de métier qui interviennent? Moi, je sais, par exemple, qu'on a un terrain, il faut peut-être un géomètre, mm-hmm. il va falloir faire des études de sol.
Exactement.
Après, il va y avoir des fondations,
mm-hmm.
et puis des maçons, enfin des gens, et puis tout un tas d'artisans qui vont intervenir. Mm-hmm. Je ne vais pas répondre pour vous. Simplement, expliquer un peu l'ordre des choses. Quelqu'un qui veut faire construire sa maison pour qu'il comprenne comment ça se passe à peu près.
Dans un premier temps, il faut faire venir effectivement un topographe. On n'a pas besoin forcément de passer par un géomètre pour qu'il relève les courbes de niveau du terrain. Effectivement, en fonction du terrain, une étude de sol est fortement recommandée.
Okay.
Parce que l'étude de sol détermine la qualité des fondations. Plus le sol est mou, plus les fondations sont chères. Donc forcément, ça a un impact très très important en cas de fondation profonde ou de remblai de substitution. On n'a pas commencé à poser le premier aglo que déjà on a payé. Donc c'est...
Et ouais. Voilà.
Après, il y a des cas aussi où, bien sûr, on fait du terrassement important. Là aussi, l'avis du topographe et du terrassier sont très importants. Et après, ben, ça déroule tout seul. Hein. On passe avec le maçon et les VRD qui travaillent ensemble pour la dalle, le plombier et l'électricien, le maçon qui continue, les plombiers et l'électricien qui reviennent. Après, on passe à la charpente. Après, on couvre hors d'eau, hors d'air, et on fait tout l'équipement intérieur dans un délai de 5 à 6 mois.
5 à 6 mois, ouais. Clé en main pour finir la villa. Quoi.
Mmh.
Ok, excellent. Est-ce qu'on peut aborder un peu le concept de la VFA? Alors, VFA, ça veut dire vente en état futur d'achèvement.
Voilà.
C'est-à-dire que les gens... Bon, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le principe?
Le principe de la VFA, c'est lorsque des gens cherchent à habiter dans une maison et qui ne sont pas forcément... satisfait de ce qui se passe sur le marché de l'occasion, ils s'adressent à des professionnels comme nous pour trouver des projets clés en main. Nous, on achète des terrains en amont, on crée des programmes sur ces terrains-là et on vend clés en main. C'est-à-dire que la personne va venir acheter un projet, va venir acheter un plan. La maison n'est pas encore construite. Et ce qui est très intéressant en général pour l'acheteur, parce qu'il économise en général, en moyenne, à peu près 20% sur le prix d'une maison déjà construite.
Okay.
Ce qui n'est pas négligeable sur des marchés qui représentent des millions. C'est un marché qui est porteur, qui est contraint à des règles administratives et juridiques qui sont, qui sont, qui sont importantes, mais c'est très intéressant pour les, okay, pour les acquéreurs.
Et du coup, est-ce que le client peut modifier peut-être aussi le plan? C'est ça aussi, je dirais, l'avantage de d'acheter quelque chose qui existe déjà.
Il peut modifier le plan légèrement à l'intérieur, oui, bien entendu. L'extérieur est plus délicat parce qu'il est déjà assujetti à un permis de construire. Donc, si jamais il modifie trop l'extérieur, il y a une modification du PC qui.
D'accord.
Voilà. Donc, bien entendu, il y a toujours un peu de modification, mais il faut que ça reste dans l'esprit global du permis de construire.
D'accord.
On ne peut pas se permettre de faire déposer des permis de construire tous les mois parce que c'est long. Les délais sont longs. Donc,
sinon, il faut que ça soit suffisamment en amont pour
voilà, que le projet. L'intérieur de la maison peut des fois parfois changer légèrement, mais l'extérieur, on se colle au projet initial. C'est une des petites contraintes de la vente en VFA. À la différence de la construction pure et dure, lorsque les acquéreurs ont déjà un terrain qui viennent vers nous, et où là, effectivement, c'est du sur-mesure.
Ouais.
Là, on parle de sur-mesure, mais les ventes en VFA, nous, on a déjà posé le permis de construire. Donc, les clients doivent quand même s'adapter à notre projet.
Du coup, dans ces genres de maisons-là, vous n'avez pas besoin d'architecte, entre guillemets, c'est des plans.
C'est des maisons qui font moins de 200 mètres carrés, donc forcément, on passe pas par l'architecte.
On
passe par des dessinateurs, des ingénieurs béton, des ingénieurs charpentes, bien entendu, qui valident nos plans, mais on ne passe pas par l'archi. À part quand les programmes font plus de 200 mètres carrés, quand c'est de la copro par exemple, on est obligé de passer par.
Parce que j'imagine, une fois que vous avez des plans de maisons un peu type, vous allez peut-être un peu modifier. Pas besoin de refaire après, passer toute une procédure.
Malheureusement, ça ne marche pas souvent comme ça, à part sur des terrains très simples. Mais le copier-coller marche rarement. Après, nous, on a une palette, on a un catalogue de 10 à 12 villas.
Okay.
Donc, on a quand même du choix. On s'adapte.
Du coup, la vente en VFA aussi, on entend parler de dispositifs de défiscalisation. Mm-hmm. Est-ce que, je crois que c'est davantage ciblé pour les investisseurs qui souhaitent acheter un appartement.
Oui.
Pour justement payer moins d'impôts. Enfin.
Oui.
Dès que je me fais de la défiscalisation, ce
moment-là. La défiscalisation en fait locale qui avait été qui appelée RILI 1 et RILI 2 en Nouvelle-Calédonie est finie malheureusement depuis décembre de l'année dernière.
D'accord.
Effectivement, ça permettait à des investisseurs qui payaient trop d'impôts d'avoir un crédit d'impôt, une soustraction sur la somme à payer finale, donc ce qui était très alléchant et ce qui a permis énormément de promoteurs de vendre des biens à des investisseurs. Ça a eu un effet assez important sur le marché calédonien.
Du coup, c'est pas ça, enfin, au niveau de la maison individuelle, c'est des gens qui souhaitent devenir propriétaires souvent.
Alors, nous, on a travaillé aussi avec la RILI 1, RILI 2.
Ah, ok, voilà.
C'était pas
incompatible du coup.
Non, pas du tout. Okay. Parce que on croisait les deux. On croisait du coup des gens qui voulaient faire un investissement fiscal et un investissement patrimonial. Parce qu'une villa, ça se garde.
D'accord, ouais.
Souvent, les gens qui ont acheté un appartement, les RILI 1 et RILI 2, revendent au bout des 6 ans.
Ok.
Alors que nous, les locataires restent, il y a très peu de turnover. Les gens s'identifient à la villa, moins à l'appart.
Des investisseurs qui achètent des villas pour les louer.
Exactement.
Ok.
Qui veulent faire du patrimonial et du fiscal. Mais ça, c'est fini maintenant, on fait que du patrimonial.
Et là, il n'y a plus du tout de possibilité en Nouvelle-Calédonie de faire ça.
D'accord. Jusqu'à ce que le gouvernement décide d'une nouvelle loi, mais pour l'instant, ça a été un peu news yet.
D'accord. Je me posais la question, est-ce qu'on peut peut-être en parler brièvement, comment vous financez un projet de promotion immobilière? Si jamais il y a, j'imagine, un gros lotissement avec une grosse parcelle de terrain, vous avez des partenariats avec des banques.
Mm-hmm.
Comment ça se passe? Est-ce que c'est comme un particulier, sauf que vous êtes une société?
Ah non, c'est pas comme un particulier. C'est pour ça aussi que la vente en VFA représente un intérêt pour beaucoup de clients. C'est que nous, on a une assise bancaire qui est importante. On travaille effectivement exclusivement avec une seule banque. On a des références qui sont bonnes. Et du coup, on n'a pas du tout les mêmes relations qu'un particulier qui va aller discuter avec sa banque. On passe avec la partie professionnelle immobilière.
Okay.
Et que le particulier ne pourra pas toucher. Après, c'est des crédits promoteurs. Et après, ça demande aussi de la trésorerie, parce qu'il ne faut pas croire que.
Bien sûr.
Pour promoteur, il faut la clé, c'est la trésorerie.
Tu disais la VFA, c'était intéressant, puisque en gros, pour les gens qui connaissent pas, la personne qui achète en VFA fait un apport, enfin au début doit verser des tranches successives, hein, c'est ça, de au fur et à mesure de l'avancement du
projet. Alors une fois que le contrat est signé, effectivement, dès qu'on passe à l'acte, on paye par tranche. Les tranches sont contrôlées par un organisme indépendant qui valide le fait qu'on réalise des choses dans les règles de l'art. Mais du coup, à chaque tranche, dès qu'on a fait, par exemple, la dalle, on a une tranche. Dès qu'on a, dès qu'on a mis les murs, on a une tranche. Dès qu'on est hors d'air, on a une tranche. Et à la fin, tout ce qu'on appelle l'équipement, le carrelage, les meubles de salle de bain, la cuisine, et enfin la remise des clés.
Mais du coup, pendant les 5 mois de construction, le client doit verser de l'argent. Enfin, souvent, ils font un emprunt bancaire.
Oui.
Pour se financer.
Oui.
Mais imaginons s'il est locataire, il a un loyer à payer. Est-ce qu'il doit payer en plus son crédit, entre guillemets ? Comment ça se passe ? Il y a des différés, du coup ?
Il peut y avoir des différés. Il peut y avoir des intérêts intercalaires, ce qu'on appelle. C'est des tout petits intérêts qui sont rajoutés au cumul du crédit global pour qu'il puisse... toujours vivre en location en attendant que son projet
c'est comme réalise. Ça vous faites d'habitude du coup
c'est comme ça toi dépend en fait ça c'est pas notre partie à nous ça c'est la partie du client en fait en fonction de sa situation financière
ouais.
Et les banques sont preneuses de ce genre de démarche parce qu'elles gagnent plus d'argent mais ça permet du coup aux particuliers de réaliser son programme tout en étant locataire donc okay. Les banques sont pas fermées à ce genre de bien au contraire. Et après, les banques, il faut savoir qu'elles préfèrent un client propriétaire qu'un client locataire. Donc, elles prêtent.
Oui, d'accord. Effectivement, elles prêtent plus facilement pour un projet de résidence principale, en fait.
Complètement.
Ouais, tout à fait.
Oui.
Je voulais te poser la question. Concrètement, combien ça coûte une maison clé en main, F4, on va dire standard, 100 mètres carrés, la terrasse, celle dont tu nous parlais tout à l'heure, à peu près un ordre de prix sur un terrain d'RBA par exemple.
Sur un terrain sur d'RBA sur mer, qui est la plus grosse ZAC de France, le plus gros contrat d'agglomération de France. Les villas F4 avec suite parentale, grosso modo, on est sur un marché en fonction de la taille des villas entre 33 et 39 millions.
D'accord.
Voilà.
Et c'est sur un terrain de quelle taille à peu près ?
C'est pas des terrains très grands, on est sur des terrains entre 5 et 7-8 arts.
7-8 arts, ok. Mmh. 5 et 7-8 arts.
C'est vraiment des lotissements en création avec une forte demande, du coup les terrains sont pas très grands.
Ok.
Il y a des règles qui nous permettent de construire sur le prospect, donc pour épouser le maximum de la taille du terrain sur certains lots, pas tous. Il faut bien respecter le PUD, mais oui, voilà, c'est. Globalement, entre 33 et entre 32 allez, et 39, on trouve son bonheur parfaitement. Avec des très belles villas, une très belle prestation.
Ok. Mmh. Et les finitions, les gens le choix un peu
sur le carrelage sur la cuisine, le carrelage, les meubles de salle de bain, les couleurs des huisseries. Voilà.
D'accord.
Après, pour tout le reste, la couleur du revêtement extérieur aussi, qui est. Filtré par le PUD ou le cahier des charges de la zone, mais on a toujours une gamme de couleurs à la
proposition. Tu dois respecter le PUD, c'est le plan d'urbanisme directeur.
Exactement.
Qui est défini par la commune, qui en gros, pour expliquer aux gens qui écoutent le podcast, c'est définir les règles à respecter en termes de couleurs, de formes, d'habitation.
C'est tout ce qui est le droit à bâtir, le droit à construire.
Ouais. Pour éviter qu'on ait Château de Walt Disney à côté de.
Oui, je sais pas. Oui, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, nous, avant, on n'avait pas vraiment de PUD.
Okay.
C'est assez récent, tout ça.
Ah, ouais.
Il y avait une urbanisation un peu sauvage qui a pu avoir des conséquences un peu néfastes visuellement.
Ah, ouais.
Du coup, aujourd'hui, effectivement, c'est beaucoup plus régulé. Alors, certaines communes ont leur PUD, d'autres non. Donc, c'est la province en Calédonie qui gère les PUD quand les communes sont incompétentes. Non pas dans le premier sens du terme, mais qui ne sont pas compétentes par rapport à leur PUD.
Ouais, tout à fait.
Il y a un travail avec la province.
Ok.
Qui est l'équivalent du département ou de la région en métropole.
Ah, oh, ok. Du coup, je voulais vous poser la question, Yann, puis Charlie, si tu veux répondre aussi. J'imagine que ça vous a beaucoup apporté votre métier au niveau de la constitution de votre propre patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu de comment, ce que ça vous a apporté, ce que ça vous a permis de faire pour vous constituer votre propre patrimoine? Est-ce que vous pouvez nous raconter l'anecdote de votre premier achat immobilier? Et justement, toute cette connaissance, j'imagine, que vous avez aujourd'hui, parce que moi, je suis corps de métier, quoi, je dirais.
Moi, je suis parti sur un produit d'occasion que j'ai rénové, sur lequel que j'ai trouvé en faisant du porte-à-porte. Et une annonce qui était collée sur la porte du garage.
Ok.
Il n'y avait aucune annonce sur les réseaux internet ou même papier. Une maison que j'ai achetée, rénovée et revendue au bout de 4 ans avec une très belle plus-value qui m'a permis de racheter une autre maison.
Excellent. Et ça, tu l'as fait avant de devenir agent immobilier promoteur?
Non, quand j'étais agent immobilier.
Quand tu as commencé à être agent immobilier, voilà. Salarié, ce que tu disais tout à l'heure.
Mais agent immobilier aussi, c'est un métier aussi. On peut s'y intéresser, c'est très complet. C'est des très bonnes bases pour devenir promoteur ou consultant.
D'accord.
Parce que si on veut l'être bien, il faut maîtriser tous les aléas juridiques, techniques.
Bien sûr.
Pareil. Ouais. Il y a de tout, il y a à boire et à manger dans la profession, mais si on veut s'y intéresser, c'est très intéressant.
D'accord. Et du coup, c'est le premier investissement, tu l'as fait il y a plusieurs années maintenant.
Il y a 4 ans.
Il y a 4 ans. Mmh. Okay, c'est assez récent finalement.
Ouais. Okay. Là, je viens de revendre, je signe la semaine prochaine, ma maison que j'achète et la maison que je vends. Donc, okay. Ça m'a permis de passer à une gamme vraiment au-dessus.
Excellent.
Et il ne faut pas avoir peur d'y aller parce que c'est une manière d'avoir du cash assez rapidement ou un patrimoine pour l'héritage de la succession.
Et du coup, comment ça se passe? Tu continues à acheter dans l'ancien, à rénover, ou est-ce que, vu que vous pouvez construire vos propres maisons, entre guillemets...
La prochaine fois, moi, je pense que je partirai sur du neuf.
Vous pouvez très bien construire votre propre maison après tout temps, je dirais, comme, un maçon fait sa maison à l'époque.
C'est ce que je vais peut-être faire sur mon prochain investissement. Ce que Charlie a fait, lui.
Okay,
il a construit. Voilà,
okay.
Moi, mon premier investissement, c'est dans des parts d'une SCI.
Ok.
Société civile immobilière.
Immobilière, ok.
Pour investir justement dans l'immobilier, donc monter un programme et puis mettre ça en location.
Excellent. Du coup, la SCI, vous êtes à plusieurs en principe.
Il y a des associés. C'est pour justement, voilà, les deux associés. On peut être plus. Ça permet de chacun des associés amène un apport pour pouvoir demander le crédit nécessaire à la banque.
Ok.
Et ensuite, on monte le programme et puis on lance ça. On peut donner ça à une agence immobilière pour qu'elle s'occupe de la location.
Ok. Et donc, c'était quoi un achat dans l'ancien d'appartement, de maison?
C'était un programme
création ou construction, quoi.
Et on s'est mis en SCI. Voilà,
okay. Sur des terrains,
sur un terrain nu.
C'est une SCI de construction, quoi.
Ouais.
Construction-revente, c'est ça en fait. Location.
Location.
Ok. C'est ça, parce que la SCI, on peut avoir différents statuts. Hein. C'est ça. Soit faire que de la gestion, soit de la location.
Mais une fois qu'on ouvre la SCI, c'est au propriétaire de la SCI de décider de la destination de la SCI. Vous pouvez garder une SCI en location toute sa vie et puis du jour au lendemain la vendre.
Okay.
Soit vendre les parts de la SCI, soit vendre le bien, soit
Ok.
Il y a vraiment plusieurs façons de voir le projet. Ouais.
Mais j'imagine qu'il y a des statuts comme une société commerçante où on peut mettre tout ce qu'on fait en fait dans la SCI, c'est ça?
Oui, il y a des statuts.
Plus on en met, mieux on se porte.
Ouais. Et l'avantage de toi, justement, tu as investi en SCI, toi en nom propre, c'était quoi l'avantage que tu as eu en investir en SCI?
C'est surtout au niveau du crédit où c'est la SCI du coup qui supporte l'endettement entre guillemets.
Ok.
Donc moi je suis pas impacté personnellement, je peux faire un crédit personnel par la suite pour un projet.
Ok.
Et c'est plus facile aussi pour plusieurs acteurs d'investir sur le même programme, d'acheter en part d'SCI plutôt que en pourcentage de maison.
Ça rassure aussi des banques parce que risque du coup divisé
par le plus facile d'emprunter finalement à plusieurs via la SCI. Voilà. Yes. Excellent. Et du coup, ça, c'est des biens que tu as encore?
Oui.
Et tu es en location?
C'est en location toujours.
Ouais. Ok. Excellent.
Et ça marche très bien. Et comme c'est de la villa, pareil, c'est très rare en temps ouvert. Les gens se sentent vraiment. Quand tu loues une villa, ils se sentent vraiment chez eux.
Ok. Bah ouais, carrément.
Et c'est intéressant.
De par votre métier, de votre activité, j'imagine, juste avec l'agence, vous devez voir passer parfois des bonnes affaires. Vous n'avez pas envie de sauter dessus, justement, pour, soit faire un achat-revente ou la mettre en location.
Moi, en l'occurrence, mon achat, c'était ça.
Okay.
C'était dans le cadre de l'agence immobilière.
Une question que je voulais poser, si une personne souhaite construire sa propre maison, mm-hmm. mais sans passer, je dirais, par un, imaginons un promoteur ou qui trouve son terrain.
Oui.
Il a des compétences. Qu'est-ce que vous lui conseillerez ? Je ne sais pas s'il y a un conseil à donner pour cette personne-là.
Conseiller de bien se renseigner sur le process de A à Z, qui n'est pas simple, de bien s'entourer et d'y aller, mais de rien lâcher. Et parce qu'il y a beaucoup de particuliers qui essayent de construire eux-mêmes et de maîtriser l'ensemble des process, l'ensemble des corps d'État, d'être le maître d'œuvre, ce qui n'est pas évident. Et surtout quand les artisans n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, ils se marchent l'un sur l'autre, ils marchent sur l'emploi du temps de l'un, sur l'emploi du temps de l'autre, ils s'envoient la responsabilité de l'un sur l'autre. C'est un cas classique et nous, on voit beaucoup de gens qui abandonnent carrément en cours de route. Et c'est pour ça qu'en général, passer par un constructeur, vous n'avez pas... Et aujourd'hui, même avec la TGC, du coup, c'est plus intéressant pour quelqu'un de passer par un constructeur que de faire ça soi-même.
Okay.
Parce que c'est un contrat de construction global avec une TGC globale et qui est de 6% pour quelqu'un qui n'est pas primo-accédant et de 3% pour quelqu'un qui est... Du coup, tout est intégré. Donc, c'est vraiment intéressant aujourd'hui.
Okay.
L'environnement législatif a fait qu'aujourd'hui, construire avec un constructeur, c'est plus sexy et moins inquiétant que de partir à l'aventure tout seul avec sa petite épée.
Ouais, clairement. Ouais, je confirme l'expérience. Enfin, moi, j'ai fait des travaux de rénovation. Tu es obligé de faire chef de chantier, en fait, comme tu disais un peu, toi, sur ta maison, tous les jours. Et moi, c'était de la rénovation, donc c'était pas non plus un gros chantier.
Ah, mais la réno, c'est un facteur surprise.
Tu dois être là pour synchroniser le plombier et l'électricien. Sinon, il y en a un qui va finir par fermer les cloisons, les câbles n'étaient toujours pas passés, ou ce genre de choses.
Non, c'est... La rénovation, c'est encore plus délicat, parce qu'il y a un facteur surprise qui est important.
En effet.
On dit en général que sur un marché de réno, il y a 20% de surprises dans le budget.
Ouais, moi, c'est ce que je conseille aux gens, prévoir au moins 15% d'imprévus dans le budget.
Ah, non, mais 20.
Il y a toujours des imprévus. Ouais. Ok. Et moi, j'ai retenu une chose dans ce que tu as dit, c'est bien s'entourer, effectivement.
Oui.
Et donc, finalement, pour se lancer dans ce projet-là, il faut quand même une petite expérience.
Oui.
Donc, c'est pas forcément à portée du novice. Sinon, on s'expose à des gros problèmes. Il faut avoir le temps de les gérer. Et puis aussi, peut-être les finances aussi.
Moi, sincèrement, je conseille à ceux qui veulent se lancer, qui ont un terrain et qui veulent construire, de passer par un constructeur. Parce que... Oui. Après, suivant les goûts, suivant les convictions, suivant les façons de construire, d'aller vers un constructeur ou un autre. Mais vraiment, de partir à l'aventure tout seul aujourd'hui, avec le nombre de prestataires sur le marché, je conseille vraiment, et c'est pas tout pour prêcher pour ma paroisse, c'est de passer par un constructeur, sincèrement.
Même au niveau des tarifs,
les
tarifs en 4
cases. Ah oui.
Et ouais, effectivement.
Quand on passe avec un petit patenté.
Négocier avec un sous-traitant, c'est pas la même chose qu'un particulier qui négocie avec un sous-traitant.
Bien sûr, ouais, complètement. Et la TGC, tu disais, quand tu fais appel à un artisan, du coup, elle est plus chère.
Oui.
Et c'est combien, du coup, le taux?
Tout dépend des prestations.
Ouais.
Des éléments apportés, des prestations, tout.
Ok. Sur l'ameublement, on va être dans les 22%, sur gros œuvres. 3 ou 6, dépendamment de où est-ce que ça se range, dans quelle catégorie ça se range, quoi.
D'accord.
Alors que nous, comme c'est un contrat de construction...
Ouais, c'est un contrat global, ouais.
Oui, c'est ça. C'est un contrat global.
Une facture globale.
En fait, on facture une prestation de service. On construit une maison pour un client, donc c'est une prestation de service. Donc elle est taxée à 6%.
Ok.
Après, moi, avec mes sous-traitants, j'ai des taux différents de TGC. Mais moi, je suis obligé de facturer 6%.
La TGC, c'est l'équivalent de la TVA en métropole.
C'est l'équivalent de la TVA.
TGC, ça signifie quoi exactement?
Taxe générale à la consommation.
À la consommation, oui. Okay. Ouais, effectivement. Donc, du coup, sur la négociation tous les corps de métier et sur la taxe, effectivement, ça, c'est carrément intéressant de passer par quelqu'un qui va tout gérer, quoi.
Et de toute façon, votre maison prendra une plus-value importante quand vous partez de rien et que vous la mettez après sur le marché. Encore une fois, que ce soit de la construction ou de la VFA, vous gagnez en général un bon 20%, voire des fois plus, sur la valeur de revente,
ouais.
Ce qui est très beau.
quelqu'un qui vient vous voir peut tout de suite revendre son bien et faire une plus-value, même de pas grand-chose. Je dirais, ça vous arrive, des gens qui font ça?
Sur la partie immobilière, oui. Après, malheureusement, ça tout dépend du prix d'achat de l'époque, parce qu'en Calédonie, on a eu un boom économique très important, des biens qui se sont vendus à des prix qui étaient pour moi de la science-fiction. Et aujourd'hui, à la revente, ça ne se revend plus. Mais après, tout dépend de l'achat initial.
Quoi. Ok. Voilà. Ça, c'est pour l'ancien, tu parles de la partie agence. Mais dans la construction neuve, ça, vous trouvez des gens qui achètent une maison justement en VFA, qui arrivent à la revendre tout de suite après?
Nous, on est quand même. On passe beaucoup avec des gens qui veulent y vivre.
Oui, bien sûr.
Pour la construction pure. Après, pour des projets de one-shot, ça nous arrive, mais c'est plus. On travaille plus avec des gens qui constituent leur patrimoine.
Ok, donc, bien sûr.
Ouais. Qui louent et en fonction de leurs aléas de vie personnelle, ils ont envie de vendre un des biens, ils ont envie de le vendre. Donc, voilà, ça, c'est bien d'avoir un bon patrimoine pour pouvoir soit en garder en gestion locative, soit en transaction.
Du coup, je vous propose de passer à la dernière partie de l'interview. Les trois questions que je pose à tous les gens qui passent derrière ce micro. Est-ce que vous pouvez nous citer une référence qui vous a inspiré dans votre vie? Est-ce que quelque chose qui vous a fait un déclic, un livre, un auteur, voilà, quelque chose que... Ça peut être une personne que vous avez rencontré.
Un film.
Un film, exactement. Ouais. Il y en a eu un aussi qui était cité dernièrement.
Le Loup de Wall Street.
Ok.
C'est vraiment une personne. Avec lui,
c'est souvent cité dans les. Justement, tu regardes un peu sur YouTube les vidéos pour qui est entrepreneur et art de convaincre, quoi, en fait, manipuler un peu, entre guillemets. Parce que finalement.
C'est pas manipulation, c'est d'amener là où on veut.
Ouais, manipuler, c'est vu péjorativement, mais finalement, quand tu négocies avec le banquier, un vendeur et tout, on sait ce qu'on essaie tous de faire.
Oui, bien entendu.
Donc je pense que c'est quelque chose qui est inné, même mon gosse de 4 ans.
Il négocie
mieux que moi, quoi. Alors qu'il n'a pas vu le Loup Wall Street, quoi. Parce qu'il obtient tout ce qu'il veut et finalement il y arrive. Ouais, ok.
Moi perso, c'est des individus que j'ai pu rencontrer qui sont partis d'en bas, des self-made men,
okay.
Qui sont créés par eux-mêmes, par leur expérience, qui ont pu chuter pour se relever. Et moi, c'est ces gens-là qui m'impressionnent et qui sont mes.
T'en as rencontré en Calédonie?
Ouais.
Ah,
c'est ça. Bien sûr, en Calédonie, moi, après mes études, je suis revenu directement.
Okay. C'est des gens de ta famille ou des gens que tu as rencontrés?
Non, des gens dans le parcours professionnel.
Voilà. Ok, tu veux citer des gens ou tu ne viens pas aller?
Non, pas forcément. Là, aujourd'hui, je suis associé avec une personne qui j'ai beaucoup de respect.
Ok.
Qui m'a impressionné par son parcours.
Ok, d'accord.
C'est très inspirant. J'aime bien moi les gens qui partent d'en bas et qui vont en haut et qui ne sont pas nés avec une cuillère d'argent. C'est ceux-là qui m'impressionnent le plus.
Okay.
C'est ceux qui se forment par l'expérience.
Moi j'aime bien citer la bibliographie d'Arnold Schwarzenegger. Je sais pas si tu as connu son parcours. Il est né en Autriche dans une forêt à poil, entre guillemets.
Oui.
Et il est arrivé à faire champion du monde de sa discipline, star international d'Hollywood, du cinéma et gouverneur de la Californie. En gros, une de ces choses dans ta vie, déjà, c'est énorme. Il en a fait trois, quoi. Et vraiment.
Et par la détermination, et par. Il est arrivé aux États-Unis, il parlait même pas anglais.
C'est vraiment ça, ouais.
C'est quelqu'un d'impressionnant. Mais après, moi, je m'identifie plus à des gens que je rencontre.
Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'il
est. Aux États-Unis, surtout en Calédonie, on a un petit marché.
Ouais.
Et pour se faire une place, il y a des codes.
Ok, excellent. Et est-ce que vous pourriez citer, Yann, toi, Charlie, un proverbe ou une phrase inspirante qui vous plaît
La confiance n'exclut pas le contrôle.
Okay.
C'est notre phrase de tous les jours.
Ouais.
C'est la clé du métier, c'est qu'on ne peut pas déléguer, il faut tout contrôler, tout gérer.
Excellent.
De la gestion financière jusqu'à la gestion technique, administrative, client, bancaire, notaire, il faut tout maîtriser, sinon c'est un métier où on chute de haut.
Du coup, c'est vous les associés ou les gérants qui contrôlez systématiquement tout ce qui se passe
complètement
sur les chantiers, au niveau administratif,
tout.
Et au niveau comptable aussi, tu disais.
Oui, on a la partie comptable qui est gérée en interne et qui est validée par un expert comptable en fin d'année, mais tout est géré en interne.
Ok. Et votre quotidien, comment vous faites pour gérer tout ça justement sans déléguer, enfin tout contrôler, j'imagine que ça prend énormément de temps.
Bah, déjà, on a chacun notre spécialité. Après, on peut plus ou moins se seconder. Okay. Mais on a une équipe assez, moi je trouve en tout cas, assez fonctionnelle dans le sens où on a chacun nos skills. Okay, et okay. Ça permet d'évoluer sur un ensemble. Ouais. Sur l'ensemble du projet, de la du prise de contact du client jusqu'à la remise des clés.
Du coup, vous n'avez pas de week-end ?
Non.
Et des vacances ? Partez en vacances parfois ?
Oui, on s'accorde des vacances. Mais le week-end, non. Enfin, moi, en tout cas, sur la partie commerciale, je ne peux pas.
Ouais.
Là encore, samedi après-midi, qui arrive, je travaille.
Et tu arrives à dormir la nuit ou il y a les questions du chantier qui te tournent dans la tête ?
La nuit est très.
Ça dépend de conseils. Mais en fait, c'est toi qui te poses des questions à toute la nuit.
Je rêve que de
ouais,
ça.
Ouais, mais quand même, c'est très très prenant.
Je rêve que de ça. C'est simple. J'ai plus de rêve
okay.
Où je me balade. Je rêve que de.
Et pour toi, c'est une vie qui te convient ? T'es heureux aujourd'hui ?
C'est exactement ce que je voulais faire.
Ok.
Ouais.
Et tu arrives à concilier une vie perso ou je sais pas, une vie de famille à côté ?
Complètement.
Ok.
Complètement. J'ai deux petits-enfants qui ont un an, même pas un an d'écart. Et qui sont tout petits et ça se passe très bien.
Excellent. Mmh. Et t'arrives à switcher entre guillemets entre le boulot, la famille.
Dès que j'arrive à la maison, que ma femme est réveillée, ouais, ça, je ne parle pas de boulot. Et à partir du moment où elle dort, je pense tout seul au boulot. Voilà.
Ok.
Voilà. Ouais, c'est ma façon de faire.
Capacité. J'essaie de développer cette compétence aussi, mais c'est pas facile.
Mais parce que de toute façon, moi, je veux pas partager avec elle, puis je le veux pas. Parce qu'elle,
ouais, après ça.
C'est pas péjoratif, mais les fonctionnaires, les profs, ben, voilà, y a pas du tout du milieu.
Ouais.
Je peux pas techniquement lui en parler.
Oui,
de toute façon, j'ai pas envie de lui en parler parce que c'est des soucis moi qui me prennent au trip et
ouais,
j'ai
ouais,
pas envie de lui faire. Donc je porte ça sur mes épaules et quand elle dort, j'y réfléchis. Mais pas quand je rentre, à partir du moment où je rentre dans la maison, je parle plus de travail.
Ok, excellent. Ok. Dernière question, qu'est-ce que tu dirais à un jeune Calédonien ou une personne qui souhaite investir ou acheter un appartement ou une maison pour se loger mais qui n'ose pas faire le pas ? Il n'ose pas se lancer.
Born again.
Il y a peur, peut-être.
Born again, la construction sereine.
Ok.
Non, venez-vous nous voir, sincèrement, on est une équipe familiale, on est trois à gérer les projets. On fait partie des plus gros constructeurs du Nord et vraiment, si vous avez un projet, on sera à votre écoute.
Tous ceux qui sont passés par nous sont très heureux aujourd'hui.
Ok, excellent. Mmh. C'est très bien. Du coup, où est-ce qu'on peut vous trouver ? À Nouméa, votre adresse, un contact téléphonique, un email.
43 63 93. On a une page Facebook. On a un site internet, bornegain.nc. On a un numéro perso. Moi, c'est 758 657. Si jamais vous voulez me joindre moi perso.
Ok.
Et voilà, on est visible partout. N'hésitez pas. La seule chose qu'on ne fait pas, c'est la construction en brousse pour l'instant. On s'arrête à la tamoie,
okay.
On va dire. Et on n'a pas encore les équipes pour la brousse ni les îles Loyauté. Malheureusement, c'est une demande qui revient souvent pour les îles Loyauté, mais on n'a pas d'équipe sur place. Et vu qu'on part du principe qu'il faut maîtriser son chantier de A à Z, on veut être sur place pour chaque maison, chaque étape de construction.
Ok. Donc vous êtes votre agence, enfin, vos bureaux, vos locaux, c'est au Faubourg Blanchot, rue Port des Pointes.
Oui.
On va déménager.
Okay. On se rapproche de nos chantiers, on va être sur Dimbéa sur mer.
Sur Dimbéa, ok. Bon, de toute façon, il y a tout sur votre site internet, j'imagine.
Oui, exactement.
Et du coup, est-ce que vous avez un message à faire passer ? Je ne sais pas si vous avez une promotion en cours, si vous souhaitez en parler.
On a 6 villas à vendre sur Dimbéa sur mer. 4 villas à 32 millions, des F4 avec suite parentale. Et 2 villas à 33 avec suite parentale aussi. C'est des villas... des villas très 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 sympas qui sont situées dans un quartier où il n'y a pas de social, où c'est que du résidentiel et
okay.
Que ce soit pour un investissement patrimonial ou pour un premier achat ou même pour passer de l'appartement à la villa, c'est tout ce qu'il faut quoi.
Excellent.
Les permis sont déjà obtenus. La commercialisation
en cours,
a commencé non plus. On attend la okay. signature d'un contrat en VFA.
Ok.
Et la commercialisation a commencé hier, donc moi j'ai une première visite cet après-midi.
Ah bah c'est tout récent.
Et donc si vous voulez passer par nous, et c'était pas mal.
Ok, bon, bah, les gens sont informés, donc ils peuvent vous contacter pour ces villas. Mm. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre accueil, votre partage d'expérience, pour vos conseils. Mm. Voilà, j'en dis pas plus. C'était vraiment intéressant de voir ce côté promotion. Voilà, les gens qui écoutent le podcast ont vraiment, je pense, apprécié. Merci beaucoup et peut-être à bientôt pour une nouvelle interview.
Avec plaisir.
Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode du podcast. Alors, puis-je vous demander un petit service ? Laissez un commentaire sur iTunes. Cela aidera d'autres personnes comme vous à trouver le podcast et à être inspiré par les professionnels et entrepreneurs interviewés. Je vous dis merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode du podcast Focus Immo Pacifique. Ciao !